France Inter.
L'invité au carré, aujourd'hui...
Lola Quéraron, journaliste et agro-déserteuse.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
La scène se déroule le 10 mai 2022 lors de la cérémonie de remise des diplômes de l'école AgroParisTech. Un groupe de jeunes ingénieurs décide de briser le protocole pour lancer un cri de ralliement qui allait marquer durablement les esprits, l'appel à la désertion. Refusant de mettre leurs compétences au service d'un système agro-industriel qu'ils qualifient de monstre à bout de souffle, ces diplômés ont choisi de bifurquer radicalement. Ce mouvement porté par le collectif naissant des agros qui bifurquent ne s'est pas arrêté aux mots prononcés ce jour-là sur les Strade. Conscient que ce choix de vie était jalonné de peurs profondes, celle d'être jugé par ses parents, celle de la solitude vertigineuse ou l'angoisse de ne pas savoir quoi faire de ses mains loin des cadres établis, il et elle décident de transformer leur révolte intérieure en une action collective, concrète et territoriale. Dès le 21 mai suivant, sont invités toutes celles et ceux qui se sentaient remués par leur message, déjà engagés ou encore hésitants, à quitter leurs écrans pour se retrouver physiquement devant les mairies de leurs villes respectives. Revers de la médaille, des propos très critiques se sont répandus dans le même temps comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Pour ces jeunes, pourtant, la bifurcation n'est pas une simple fuite ou un retrait du monde, mais une reconquête active de la liberté à travers la création de fermes, d'ateliers, d'espaces communs. Ils ont voulu prouver que c'est par l'ancrage dans le réel que l'on peut enfin reprendre le contrôle sur son existence, protéger ce qui reste de la beauté du monde et inventer de nouvelles manières de produire et de vivre loin des trajectoires toutes tracées par leurs études ou la pression sociale. 4 ans plus tard, que sont-ils et elles devenus ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec notre invité. Bonjour Lola Quéraron.
Bonjour.
Agro-bifurqueuse, hein, c'est ça comme on vous présente aujourd'hui ? Comme vous vous présentez vous-même d'ailleurs ?
Oui, journaliste je fais partie du groupe d'agro-déserteurs et déserteuses.
On va revenir évidemment sur cette date du 10 mai 2022. Il s'est passé beaucoup de choses dans votre jeune vie depuis 4 ans, là, depuis cette date justement.
Globalement, après le discours, j'ai passé un peu de temps à la rencontre de fermes ou de lieux collectifs en milieu rural et dans des luttes écologiques et paysannes. Et je suis devenue journaliste et j'ai documenté les alternatives et les luttes notamment paysanne, pendant 3 ans et demi pour la revue Silence.
Ouais, donc 4 années bien pleines. Vous ne regrettez pas la bifurcation, justement ?
Je ne regrette absolument pas mon choix et très heureuse de ma vie aujourd'hui.
C'est l'occasion de découvrir votre parcours, vous qui publiez et coordonnez Terre partagée, des fermes collectives pour sortir de l'agro-industrie. C'est aux éditions du Passager clandestin. On va faire connaissance avec vous, Lola Quéraron. De quel milieu social est-ce que vous venez ? D'où et comment l'écologie est-elle entrée dans votre vie au départ ?
Eh bien, moi je viens d'un milieu social assez aisé, très clairement. Mes deux parents étaient ingénieurs, donc j'ai grandi en milieu périurbain à côté de Nantes. Mmh. Et je dirais que l'intérêt pour l'écologie, il est venu assez tard. Moi, petite, quand je me rappelle de mon enfance, c'était plutôt les questions sociales en fait, qui me touchaient. Je pense aussi d'avoir grandi avec des parents de gauche qui parlaient quand même beaucoup politique à table. Ça a joué, mais c'est vrai que l'écologie, c'était pas tellement un sujet dans ma famille. Et c'était plutôt... en tant que femme, j'ai quand même aussi été confrontée assez vite aux violences du patriarcat. Donc c'était cette forme de domination que j'ai pu subir directement ou voir mes copines subir. Et puis les questions sociales, voyant mes amis qui ont un milieu moins privilégié que moi, avec plus de galères dans la vie, ça m'a toujours révoltée. Je trouvais toujours trouvé ça très injuste. Et l'écologie, c'est venu plutôt pendant le début de mes études à AgroParisTech. Au fur et à mesure que je me formais, je me suis aussi politisée. J'ai pris conscience à la fois des ravages écologiques et sociaux en cours, mais aussi de comment ils étaient liés à des rapports de domination beaucoup plus structurels et qui étaient en fait la source des problèmes et des ravages écologiques actuels.
Et cette école, AgroParisTech, comment vous avez fait le choix de l'intégrer au départ ?
Eh bien, moi, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire après le lycée, comme je pense plein de jeunes aujourd'hui. Et petite, c'est vrai que je voulais plutôt devenir journaliste et documenter les fronts de guerre et les horreurs qui peuvent se trouver pour dénoncer et visibiliser ces choses-là. Et du coup, assez éloignée d'un métier d'ingénieur, et je pense que j'ai simplement été sous l'influence notamment de mes parents qui avaient envie que je fasse des études scientifiques.
Très bien, on salue votre mère qui est derrière la vitre hein, d'ailleurs, puisqu'elle assiste à l'émission en régie.
Mais il y avait aussi un début d'intérêt pour l'écologie et j'avais la croyance en intégrant un groupe high-tech que je pourrais trouver un métier qui contribuerait à améliorer la situation actuelle de nos milieux de vie.
Donc ça veut dire quoi ? En choisissant cette école, vous aviez déjà une petite réserve un peu derrière la tête ou pas ?
Je pense pas vraiment, j'étais encore assez naïve. On m'avait un peu présenté le métier d'ingénieur comme personne qui trouve des solutions à des problèmes. Ça, c'est un peu la définition qu'on entend souvent. J'ai compris après coup qu'en fait, on est plutôt du côté des problèmes que des solutions. Mais voilà, je pensais intégrer des masters en écologie, éventuellement faire de la recherche ou travailler dans des collectivités. Et c'est vraiment pendant mes études que j'ai été désillusionnée sur ce que c'était vraiment... être cadre, ingénieur et comment en fait tous les métiers qu'on nous présentait qui étaient souvent repeints de vert, hein, on parle pas de bosser les métiers dans l'agro-industrie, on parle de plein de métiers qui sont colorés dans des bureaux d'études, enfin des études d'impact pour préserver soi-disant les milieux, en fait c'est des manières encore de maintenir les ravages juste en repeignant en vert.
Donc il y avait déjà des petites dissonances un petit peu quand même qui s'affirmaient.
Bah moi, je pense que oui, dès que je suis arrivée à AgroParisTech, les dissonances étaient flagrantes, quoi. Entre le discours de l'école, qui a quand même pour slogan « talent d'une planète soutenable ». Alors évidemment, déjà, le mot « talent » est extrêmement problématique, mais voilà, il y a tout ce discours très, très élitiste où on nous fait croire qu'on serait les talents de la nation. Mais voilà, planète soutenable, évidemment, c'est tout l'opposé. Puisque AgroParisTech, mais comme toutes les écoles d'ingénieurs, en fait, ont été fondées pour répondre à des besoins capitalistes et industriels. Et donc, bah, naturellement, c'est à ça qu'elle répond. Et donc, naturellement, il y a aussi tout un tas de proximité avec l'agro-industrie, les banques aussi, la finance. Et moi, ouais, dès le premier jour, en arrivant sur le campus, on voit la Société Générale qui essaye de nous acheter en nous offrant, en nous incitant à ouvrir des comptes chez elle pour... les futurs cadres qui gagneront beaucoup d'argent, soit déjà voilà, au sein de la Société Générale, Lactalis qui nous fait des amphicocktails le midi, donc étudiants, on adore manger des choses gratuites le midi, ouais. Pour, pareil, encore une fois, nous faire sa promotion, des cours pour faire des OGM, des TP, donc des travaux pratiques à l'école dès la première année, voilà, c'est tout ça
donc
qui est à l'opposé.
Donc il y a plein de partenariats, en fait, des partenariats, des présences aussi au conseil administratif qui sont problématiques pour vous à ce moment-là ?
Mais en tout cas, oui, je prends conscience de tous ces partenariats, de la présence hyper forte de l'agro-industrie qui se traduit par plein de manières, autant voilà, par le conseil d'administration que par le financement de chaires, donc de cours ou de recherche à AgroParisTech, ou par le financement de la vie étudiante. Enfin, il y a vraiment plein
mais
de manières.
Alors vous
de
dites quoi, Lola Carraron ? J'ai quand même resté et essayé de faire en sorte de devenir quand même ingénieur in fine à la sortie ? Ou vous dites, oh là là, ça va me poser des problèmes et il va falloir rapidement que je trouve une voie de sortie ?
Eh bien oui, étonnamment, je ne me suis pas dit que j'allais arrêter en cours. Je pense que j'ai pris conscience assez tard, en fait, je ne deviendrai jamais ingénieur parce que au fur et à mesure, voilà, au début je pensais faire de la recherche, ensuite je me suis dit je travaillerais peut-être en association. C'est assez minoritaire, mais c'est aussi possible après nos études, association de promotion de l'agriculture paysanne. Et en fait, plus mes années avançaient, plus je me suis éloignée et j'ai voulu plutôt servir les luttes écologiques et sociales en cours et construire notre autonomie matérielle et politique. Et c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui.
Mais au bout du compte, vous êtes resté combien de temps à AgroParisTech jusqu'à la remise du diplôme quand même,
hein ? Oui, tout cursus, trois ans.
Voilà. Et vous l'avez vécu comment alors personnellement ?
Eh bien, je pense que ce qui m'a fait aussi rester, c'est aussi toute la stimulation politique que j'avais en dehors de l'école et des camarades que j'ai rencontrés là-bas, qui sont aussi très minoritaires dans l'école, hein, puisqu'on est plutôt sélectionnés pour se soumettre à l'ordre établi, avec les classes préparatoires, et parce que encore plus à Paris, beaucoup de personnes venaient de milieux encore plus privilégiés que moi. Donc, on était peu, mais j'ai quand même, en parallèle de ces études, aussi découvert les mouvements sociaux. Et moi, la grosse moment d'accélération, ça a été 2018-2019, avec à la fois début du mouvement climat en France, mouvement des Gilets jaunes, et là, découverte à la fois du fait... Enfin, j'ai appris que c'était possible de sortir de l'impuissance, ce sentiment qui est assez horrible et que je pense tellement de gens ressentent aujourd'hui, de ne pas savoir... Enfin, on est abreuvé au quotidien de mauvaises nouvelles complètement déprimantes, mais c'est hyper dur de savoir comment se saisir de ça, d'avoir la prise sur ce réel. Et en fait, ma porte d'entrée, ça a été, oui, les luttes écologiques. Et quand j'ai redécouvert la puissance de l'action collective et qu'en fait, collectivement, on pouvait bloquer, on pouvait, par des actions concrètes, directes, avoir un impact sur les ravages en cours et ces actions amènent réellement à des victoires, ça a été hyper enthousiasmant et voilà.
Donc ça a été un vrai déclencheur pour vous et ça a été aussi, vous le disiez, hein, le début finalement de votre politisation aussi des sujets.
Oui, et bien voilà, comme je disais, ma porte d'entrée ça a été les luttes écologiques, mais en fait assez vite on prend conscience que elles ne peuvent pas être dissociées des questions sociales et plus largement que ça, des questions aussi décoloniales. Et donc, moi, j'ai eu, je me souviens des premiers blocages d'Extinction Rébellion à Paris, où très vite on a été rencontrés. Il y avait eu des frappes aériennes du Rojava, donc de cette révolution écologique et féministe qui a lieu dans le nord-est de la Syrie. Et donc, j'ai découvert, mais j'ignorais complètement le fait que cette région entière s'auto-administre. C'est quand même une révolution qui est assez. Extrêmement inspirante aujourd'hui, qui est là encore attaquée récemment. Donc j'ai aussi découvert toutes les luttes internationalistes qui existaient en France aujourd'hui. Et ça, c'était aussi extrêmement inspirant.
Restons encore un petit peu sur l'école, parce que c'est intéressant aussi, vous, dans ce parcours d'ingénieur que vous imaginez, en tout cas pour vous, vous racontez que vous réalisez aussi à ce moment-là que beaucoup de connaissances étaient absentes de votre formation. Donc, quels sont précisément, dans ce type d'école, les sujets cruciaux, quand on fait de l'agro, précisément, qui étaient passés sous silence pendant ces 3 années d'études-là ?
Eh bien, il y a tellement de sujets passés sous silence que ce serait compliqué d'en faire une liste exhaustive.
Mais c'est une école qui a vocation à former les agriculteurs au départ ou pas du tout ?
Alors, absolument pas. Pour le coup, c'est pas sa vocation. Elle cherche à former des cadres agronomes. Donc, c'est un peu cette absurdité. Donc, c'est des gens qui vont donner des conseils aux agriculteurs ou aux agricultrices sans savoir souvent soi-même cultiver ou faire de l'élevage ou prendre soin d'animaux. Donc, il y a déjà cet énorme sentiment d'illégitimité partagé par plein de camarades, pour le coup, de mon école, quand on sort de ses études. Et ensuite, il faut aussi savoir qu'à AgroParisTech, on parle d'école d'agro, mais en fait, il y a 4 grands domaines et ça touche autant à la santé, autant à l'agriculture que la santé, que l'agroalimentaire et que l'écologie. Donc moi, j'ai déjà fait un cursus plutôt tourné sur l'environnement et l'écologie. Mais en effet, en stage, donc mon premier stage à Basta m'a fait un peu enquêter, étudier tout
donc
un tas de sujets.
Le média Basta, hein.
Le média indépendant Basta, qui m'a fait travailler sur les questions de santé environnementale et de pesticides. Et en fait, ça, c'est des exemples de sujets qui passent complètement, qui sont complètement invisibilisés à AgroParisTech. J'ai appris comment on peut se passer de glyphosate et d'herbicides en allant rencontrer des agriculteurs. Comment, c'est quoi en fait les vrais effets sur la santé à la fois des paysans, des paysannes, mais aussi des riverains, mais aussi de la population générale. Ça, c'est des sujets évidemment, qui sont complètement ignorés aussi à AgroParisTech. J'ai découvert qu'il y avait encore des nouveaux OGM en France, chose que j'avais encore une fois jamais entendue. Et sans parler, évidemment, des questions décoloniales, qui sont des questions comment l'agro-industrie est encore dans un rapport ultra-néocolonial au monde. C'était encore moins un sujet, que ça soit le chlordécone, que ça soit comment on exporte des pesticides interdits aujourd'hui en Europe, au Brésil et dans d'autres coins du monde, qui vont complètement empoisonner les populations entières. Enfin, c'est une forme, des gens appellent ça du colonialisme chimique, mais tous ces sujets-là, c'était même pas imaginable d'en entendre parler. Et rien que des choses plus basiques de où en est l'état du monde aujourd'hui, d'un point de vue écologique, c'était des cours extrêmement rares, alors qu'on est censé être des talents d'une planète soutenable.
Lola Carraron, on va voir dans un instant, on va revenir sur cet épisode qui a marqué quand même un peu les esprits. Hein. C'était donc en mai 2022, l'appel a déserté. Le jour de la remise de vos diplômes avec certains de vos camarades d'AgroParisTech. Et c'est à l'occasion également de la sortie de ce livre, Terre partagée, c'est aux éditions Le Passager clandestin. A tout de suite.
France Inter. Mathieu Vidard. La Terre au carré.
Bonjour à tous et à toutes.
AgroParisTech forme chaque année des centaines d'élèves à travailler pour l'industrie de diverses manières.
Nous avons rencontré des personnes qui luttaient et nous les avons suivies sur leur terrain de lutte. Ils nous ont fait voir l'envers des projets que nous aurions pu mener en tant qu'ingénieurs.
Et nous sommes plusieurs à ne pas vouloir faire mine d'être fiers et méritantes d'obtenir ce diplôme à l'issue d'une formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours.
J'habite depuis 2 ans à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes où je fais de l'agriculture collective et vivrière, entre autres choses.
Nous ne croyons ni au développement durable, ni à la croissance verte.
À vous de trouver vos manières de bifurquer.
10 mai 2022, cet appel a déserté à l'occasion de la remise des diplômes d'AgroParisTech. On entendait votre voix, Lola Carraron. Vous faisiez partie des étudiants présents donc sur scène. Vous êtes notre invitée cet après-midi et j'aimerais bien que vous nous racontiez dans quel état d'esprit d'abord vous avez pensé ce fameux discours et puis comment ensuite vous l'avez vécu. Quand vous réentendez cette archive, et vous avez dû l'entendre quand même pas mal parce qu'elle a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous ressentez encore aujourd'hui ?
Je crois que là, ça m'a rappelé le trac que j'ai eu en parlant devant cette salle où on mettait quand même le doigt sur quelque chose qui, à la fois, était un sentiment assez partagé, mais quand même un non-dit assez gros qu'on avait, même avec notre camarade de promo, où on parlait assez peu politique, finalement, pendant toutes ces années. Et puis, devant tous les parents d'élèves qui sont hyper fiers de voir leurs
les profs.
Et les profs.
Les cadres administratifs. Mais donc c'est le track qui revient pour vous ?
C'est le track et le fait que, en tout cas, je me sens toujours autant alignée avec ce qu'on a dit à l'époque, 4 ans plus tôt, et je pense que c'est partagé par par mes camarades. Et...
Comment vous l'avez mûri alors ce discours ? Comment est née l'idée justement de faire ça, cette déclaration, le jour de la remise des diplômes ? Parce qu'il fallait quand même oser le faire, quoi. C'était, j'imagine aussi pour vous, une certaine prise de risque, ou pas ?
Je pense... pas tant, à part plutôt humainement, je pense, comment ça va être perçu de nos proches, de notre famille. C'est plutôt ça, pour moi, qui a été le plus stressant et le plus risqué.
Vous en aviez parlé à vos proches ou pas ?
Oui, à certaines. Ouais. À ma mère, mais pas à tout le monde. Ouais. À assez peu de personnes. Et non, je pense que c'est venu, ce discours, on était plusieurs... camarades de promotion à s'être retrouvés tout au long de nos années d'études sur des luttes, sur des manifs, sur des ZAD, sur des blocages. Et on savait qu'on était minoritaires au sein de notre école, mais qu'on partageait un certain socle politique. Et moi, j'avais en tout cas accumulé un tas de frustrations pendant toutes ces années. On avait essayé un peu naïvement aujourd'hui, je pense, avec quelques camarades, de changer de l'intérieur notre école, de dénoncer la présence de l'agro-industrie dans l'administration, de changer la cantine pour que Casino partent et qu'on n'ait plus d'agro-alimentaire qui nous nourrisse tous les jours. Mais en fait, on déployait une énergie énorme pour des résultats vraiment minimes, voire dérisoires. Et là, je pense que voilà, ce discours, on était arrivé à un moment où en fait, on avait pris conscience que cette école, elle sert la classe dominante, elle a été faite par la classe dominante pour servir la classe dominante, que on n'avait pas d'espoir dans le fait de la changer. Et nous, l'objectif, c'était vraiment de s'adresser à des camarades de promotion qui, alors certes, pour une bonne partie, venaient de milieux privilégiés, mais qui sont encore à une phase de leur vie où c'est encore plus facile de changer de voie, où beaucoup d'entre eux, je pense, d'entre elles, doutent et se retrouvent dans des jobs parce que la pression familiale, l'école, la société les encouragent dans cette voie, mais sans être convaincus, et même en étant assez réaliste sur le fait que c'est pas de cette manière-là qu'ils vont changer les choses, arrêter les ravages, et qui en fait savent pas comment retrouver prise sur le monde. Et nous, on avait vraiment envie de s'adresser à ces personnes-là. On sait bien qu'il y a des personnes qui n'allaient pas changer, mais en fait, une grande majorité d'étudiants, je pense, aimeraient bien vivre autrement, mais ne savent pas forcément aussi.
Et donc là, faire. Vous formez un petit groupe, c'est ça ? Vous êtes combien, en fait, à décider de présenter ce discours-là ?
On était 8.
8.
On était 8.
Combien de temps à l'avance vous avez réfléchi à ce que vous alliez dire?
J'ai un peu oublié, j'aurais dit un mois. Ce que je sais, c'est qu'on a... C'était assez rapide pour l'écrire à distance, qu'on était tous au quartier de la France et toutes. Et qu'on a, voilà, jusqu'au dernier moment, à dernière minute, avant de la cérémonie de remise de diplôme, continuer d'écrire la fin du discours.
Donc vous montez les 8 sur scène, hein, à ce moment-là?
Ouais.
Comment ça se passe, ça? Vous étiez, c'était déjà prévu que vous montiez ensemble sur scène, ou pris un peu la scène par surprise?
Alors, on avait eu l'autorisation, c'était prévu qu'on prenne la parole, mais évidemment, le contenu du discours n'était pas connu. En fait, il se trouve que c'est une association étudiante qui organise la remise de diplômes, et c'est prévu des temps pour que des personnes racontent leur parcours, témoignent un peu de leur trajectoire personnelle. On a demandé à le faire en groupe, et on avait été un peu évasif sur le contenu de notre discours.
Combien de temps il faisait le discours? Parce qu'on a entendu une partie
Sept minutes, je crois.
7 minutes, Et vous aviez le cœur qui battait très très vite à ce moment-là, devant les micros?
Oui, je pense que j'ai bafouillé plusieurs fois.
Ouais. Comment vous avez senti la salle par rapport à vos mots, par rapport à votre message aussi, et par rapport à cette invitation aussi à la désertion?
Eh bien...
Est-ce que c'était plutôt bienveillant à votre égard? Est-ce qu'il y avait la défiance, de l'hostilité?
Moi, je me souviens qu'on a été énormément applaudis, mais qu'il y avait quelque chose d'un peu étrange là-dedans. Parce que, à la fois, je pense que de la part de nos étudiants, il y en avait beaucoup qui étaient sincèrement d'accord avec nous, même s'ils ne sont pas dans les luttes aujourd'hui. Mais en même temps, on voulait, je pense, pas tirer de la fierté là-dessus. Enfin, pour nous, c'est... On a partagé des choses qui nous mettaient en colère ou des choses qui nous donnaient de l'espoir, mais il y avait quelque chose d'un peu dissonant dans cette salve d'applaudissements, alors qu'on se doutait qu'une bonne partie des gens qui nous applaudissaient allaient continuer, allaient continuer dans la voie qu'on dénonçait. Donc c'était ça qui était un petit peu étrange. Et en même temps, il faut aussi du temps, et c'est normal à chacun de prendre le temps de trouver sa manière de déserter.
Mais... Comment s'est passée la sortie de scène alors? Avec vos enseignants, avec vos profs? Là encore, avec la direction d'AgroParisTech, comment ça se passe?
Ouais, et bien là aussi, mon moment assez gênant de petit four.
vous êtes allé au cocktail de fin quand même?
On y allait et on a mis un infokiosque de brochures militantes, donc ça nous a fait plaisir. Mm-hmm. Donc de brochures sur plein de sujets de lutte qui nous tenaient à cœur. Et on distribuait aussi le texte de notre discours là-bas. Et voilà, on n'a pas eu beaucoup d'échanges avec les profs à ce moment-là, en tout cas moi personnellement.
Mmh. Donc il y avait quand même un gros froid général ou pas?
C'est un peu difficile à décrire, mais non, moi j'ai quand même le souvenir de beaucoup, en tout cas d'étudiants qui venaient nous féliciter, nous dire merci, parce que je pense qu'on les a... On a touché quand même beaucoup de gens, et par les exemples assez très précis qu'on donnait, ça a fait écho en fait à plein de gens.
La vidéo, évidemment, de ce moment-là a circulé sur les réseaux sociaux, atteignant des millions de vues, alors que l'école demandait la suppression de certains contenus, d'ailleurs pour des raisons de droit. Comment ça s'est passé ça aussi? Est-ce que vous avez été surpris par l'écho que ça a pris ensuite? Parce que ça a dépassé largement les murs d'AgroParisTech.
Oui, en fait, la vidéo, on l'a postée quelques semaines plus tard. Et moi, personnellement, je ne m'attendais vraiment pas du tout à un tel emballement médiatique. On s'est retrouvés un peu démunis face à ce buzz, à toutes les sollicitations qui nous ont tombées dessus. Mais en même temps, énormément. Alors oui, sur les réseaux, évidemment, avec un discours... politique qui dénonce les intérêts de la classe dominante, forcément on a énormément de critiques, mais aussi tellement de personnes qui nous ont dit avoir pleuré devant le discours, ça m'a touché profondément, des paysans, paysannes, je me souviens de Notre-Dame-des-Landes qui me témoigne qu'ils avaient ils trouvaient plus trop de sens dans ce qu'ils faisaient, et de nous entendre, ça les a renforcés. En fait, je pense aussi plein de gens qui ont fait ce choix de déserter, même sans l'appeler comme ça, se sont sentis aussi encouragés, soutenus, d'entendre des jeunes qui l'exprime.
Laura Carraron, d'ailleurs, ce terme de désertion, ça veut dire quoi, vraiment, au fond? Vous invitiez à quoi?
Ouais, c'est sûr, désertion, à la base, c'est plutôt la désertion de la guerre militaire. Nous, on l'a pris sous l'angle de déserter une guerre qui est menée par notre système capitaliste, colonial, patriarcal, contre le milieu vivant et humain compris, évidemment. aujourd'hui, on pourrait aussi beaucoup plus développer le fait que l'ingénierie et les techniques servent aussi la guerre militaire et on est en plein là-dedans aujourd'hui. Mais le message qu'on voulait faire passer, ce qu'on voulait dire derrière déserter, c'était de refuser d'être complice, en fait, de refuser de servir la classe dominante, ce qu'on nous encourageait à faire à travers nos postes de cadre d'ingénieur agronome, et de retrouver une puissance d'agir. Souvent, la désertion, ça a été beaucoup déformée ou comprise sous une idée de fuite, comme si on allait se marginaliser, se renfermer sur nous-mêmes, entre nous.
D'ailleurs, certains vous le reprochaient de quitter l'école dans ces conditions-là, en fait. Hein.
Oui, ça a été les critiques assez classiques. Moi, je pense qu'on avait plutôt fait le constat que, en fait, ça n'allait pas. Qu'il y avait trop d'inertie pour changer les choses de l'intérieur aujourd'hui sans un énorme mouvement social et qu'il manquait de force à cet endroit-là, en fait. Alors, c'est super d'avoir des alliés de l'intérieur, mais nous, c'était pas un abandon, c'était vraiment justement retrouver tout notre temps pour le mettre au service. Ça peut prendre plein de manières, la désertion. On ne dit pas une seule manière de déserter. On va parler probablement beaucoup de ferme collective. Je ne veux pas du tout dire que c'est la seule manière de déserter. Et je pense qu'on a beaucoup insisté sur l'artisanat, la paysannerie, mais c'est important pour moi de souligner que derrière désertion, il y a aussi le fait de participer activement aux luttes sociales, écologiques, décoloniales, féministes en cours. Et que pour moi, c'est vraiment les deux à la fois, c'est les deux facettes de la désertion. Et du coup, la désertion, ça peut être retrouver une activité qui permet de prendre soin, qui permet de prendre soin des gens, du vivant, par l'éducation, la paysannerie, l'artisanat, mais aussi l'éducation populaire, le fait de changer les imaginaires. Il y a mille et une façons de le faire. Mais en tout cas, c'était refuser cette allégeance et ne pas servir à l'administration du désastre pour faire des choses.
Encore deux questions avant de passer ensuite effectivement au thème qui vous intéresse aujourd'hui, celui des fermes collectives, le lac Araon. Est-ce que d'abord vous aviez réfléchi à la suite déjà en quittant AgroParisTech? Est-ce que vous aviez déjà un plan quasiment écrit de ce que vous alliez faire dans votre bifurcation vous personnelle? Et comment vous avez vécu aussi les critiques qui vous étaient adressées, qui ont été très dures aussi, très virulentes? On a beaucoup lu, par exemple, que c'était ces jeunes ingénieurs d'AgroParisTech, de familles et de milieux aisés, qui tout d'un coup prenaient la parole comme ça, et on s'est aussi moqué de vous, pas mal. Comment vous avez vécu, vous, cet aspect-là des choses?
Eh bien, oui, je pense que je me souviens un peu du stress qu'il y a pu avoir derrière des articles qui m'ont... n'a pas eu tellement, mais certains qui me visaient en plus individuellement, personnellement. Ma famille aussi qui était assez inquiète, notamment ma grande sœur. Je me souviens pour moi quand une journaliste m'a un peu harcelée par téléphone pour me forcer à répondre à ses questions et qui a fait un article horrible derrière. Mais en fait, assez vite, ça a été quand même très vite compensé par toute la vague de soutien qu'on avait. Et on a juste, je pense, assez rapidement ignoré ces critiques-là.
Donc après la remise de diplôme, qu'est-ce que vous avez fait ?
Eh bien, moi, après la remise de diplôme, c'était une période de transition. J'ai assez vite fini un service civique. Donc, j'ai souhaité prendre le temps de me former pour savoir me réapproprier des savoirs paysans, des savoirs qui sont à la base de l'écologie, finalement. Que
combler
ça soit...
les lacunes dont vous nous parliez tout à l'heure. Alors.
Oui, complètement. Après des longues années, quand même, très tournées sur la théorie, les savoirs très théoriques, je me sentais complètement incapable de faire quoi que ce soit de mes mains, et même d'un point de vue agricole. Donc, j'ai passé du temps dans des lieux à la fois politiques et paysans, notamment à moi, Notre-Dame-des-Landes, qui m'a beaucoup bousculée, beaucoup inspirée comme manière de vivre, d'associer l'engagement politique à le fait de prendre soin de son milieu de vie très concrètement. Et où j'ai appris plein de choses, que ce soit du maraîchage, que ce soit la cueillette de plantes médicinales, ou d'un point de vue plutôt artisanal, la taille de pierre. Et tout ça, en aussi l'associant à des luttes et en participant, c'était une période aussi des premiers mois des soulèvements de la terre, qui luttent donc contre l'accaparement des terres et la bétonisation des terres. Donc ça me... j'ai passé...
Ça a été votre formation, en fait,
après
le diplôme de l'école.
Beaucoup plus intéressante.
Lola Carrère, on va parler de cet ouvrage qui sort au Passager clandestin. Ça s'appelle « Terre partagée » autour de fermes collectives, avec une ambition, celle de sortir de l'agro-industrie.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
On passe de l'artisanat à l'industrie, de même que dans toutes les branches de l'agriculture d'ailleurs actuellement. Et je crois que notre école est une des premières à avoir donné le principe de l'agriculture-industrie. L'agriculture doit s'industrialiser comme le reste.
1964, archives de la RTF, on entendait au Journal de Paris, l'école d'agriculture de Grignon, avec la voix de son président de l'époque, monsieur Katchadourian. Lola Carrère, vous qui êtes ingénieur agronome déserteuse, journaliste engagée, vous puis donc terre partagée aux passagers clandestins. Une petite réaction d'abord sur cette archive, sur l'industrialisation donc déjà à l'époque de l'agriculture.
Eh bien, oui, c'est pas étonnant pour moi d'entendre ça d'un ancien directeur d'AgroParisTech. On est plein dans la phase d'industrialisation qui continue aujourd'hui, où l'objectif n'est plus... autant après la Seconde Guerre mondiale, on peut à la limite comprendre l'enjeu de nourrir la France. Là, on a clairement atteint et dépassé cet objectif. Et le but, c'est simplement d'exporter pour avoir toujours plus pour nourrir le capital et l'industrie agroalimentaire. Et voilà, c'est aussi la phase du remembrement avec toutes les luttes paysannes qui ont essayé de résister à cette industrialisation dont on a peu entendu parler, qui sont très invisibilisées. Et voilà, moi je voulais peut-être rappeler qu'il y avait énormément de paysans, paysannes à l'époque qui, dans les campagnes, notamment moi de la région où je viens, en Bretagne, mais pas que, qui ont essayé de résister et malheureusement, ils se sont fait écraser par... le poids du complexe agro-industriel.
Terre partagée, donc, avec ces fermes collectives pour sortir de l'agro-industrie. Donc, c'est ce livre que vous dirigez, que vous avez coordonné en tous les cas. Vous signez aussi quelques articles à l'intérieur. C'est quoi l'objectif, finalement ? C'est de rendre l'agriculture plus désirable, d'une certaine manière, aujourd'hui ?
Oui, je pense que ça fait en effet partie de l'objectif. Ça part du constat que... aujourd'hui, il y a énormément d'agriculteurs et d'agricultrices qui partent à la retraite. C'est un quart des agriculteurs et des agricultrices d'ici 2030. Et en fait, les fermes, si elles ne sont pas reprises par des nouvelles personnes paysannes, c'est les exploitations actuelles qui sont déjà énormes, qui s'agrandissent, qui font que s'agrandir et qui vont toujours dans un modèle plus industriel. Et ça, c'est extrêmement ravageur, autant humainement, parce que ça fait une pression énorme sur les agriculteurs qui se retrouvent à gérer des exploitations beaucoup trop grande et c'est un suicide tous les deux jours d'agriculteurs ou d'agricultrices en France. Je pense que c'est difficile de prendre conscience de ces chiffres aussi impressionnants. Et donc, en fait, on a besoin d'une installation massive de paysans, paysannes. La Confédération paysanne parle d'un million de paysans, paysannes. Mais moi, je pense qu'au-delà d'installer des paysans, on a besoin de se partager plus largement ce travail de production de notre alimentation. Donc, en fait, chacun, chacune, on pourrait dédier une partie de notre temps à ça.
Est-ce que c'est ce que vous faites, vous, aujourd'hui, d'ailleurs, ou pas ?
C'est ce que je fais avec des camarades en Bretagne, dans les Côtes d'Armor.
Donc vous vivez dans une ferme collective ?
Je vis dans un lieu où on fait du jardin en collectif et on produit du pain, mais parmi d'autres activités, en effet.
Alors, une ferme collective, c'est quoi aujourd'hui, en 2026 exactement ?
Eh bien, une ferme collective, derrière ce mot-là, moi j'ai voulu parler de groupes constitués d'au moins trois personnes avec des gens qui ne sont pas issus d'une même famille, parce qu'il y avait beaucoup de fermes familiales qui sont aussi en quelle sorte collective, mais de gens en effet qui ne sont pas issus du même milieu familial et qui s'associent pour travailler la terre dans un même espace. Il y a plein de manières de... J'ai essayé de montrer la diversité des fermes collectives, autant dans les premiers chapitres du livre, des fermes qui ont plutôt pour but d'installer des paysans, paysannes qui veulent se rémunérer dignement de leur travail, avoir de meilleures conditions sociales, aussi accéder à des fermes qui sont aujourd'hui assez grosses et du coup tout seul, c'est énorme pression et assez difficile, surtout quand on n'est pas issu du milieu agricole, mais pas que. Rien que financièrement, en termes de charge de travail, de reprendre ces fermes. Donc ça, c'est les premiers types de fermes, ou les fermes qui sont souvent sur des modèles plus associatifs, qui cherchent plutôt à créer des ponts avec la ville et la campagne. Et je pense que ça aussi, c'est hyper important de permettre à des personnes en ville d'accéder au milieu rural, de se réapproprier les savoirs paysans, et
Donc dans ce livre, c'est ça, en fait, vous explorez toutes les alternatives qui existent à ce modèle agro-industriel à travers donc, des fermes qui sont assez différentes les unes des autres d'ailleurs. Vous faites une cartographie des initiatives possibles en parlant donc des fermes communes, des fermes partagées, des fermes solidaires et sociales, des fermes pirates. Qu'est-ce que c'est qu'une ferme pirate?
Oui, les fermes pirates, c'est des collectifs de personnes plutôt militantes qui occupent des terres pour lutter contre des projets d'accaparement ou de bétonisation.
Notre-Dame-des-Landes, par exemple.
Concrètement, Notre-Dame-des-Landes est bien connue, mais aussi les semeuses, devenues les germeuses à Bure contre un projet d'enfouissement de déchets nucléaires, ou des projets beaucoup plus petits et méconnus de compensation écologique en Isère, par exemple.
Mais ces fermes collectives, le Lac Arrayan, aujourd'hui, est-ce qu'elles sont réellement en train de prendre de l'ampleur ou est-ce que ça reste des expériences très isolées sur le territoire? Est-ce qu'on a déjà une sorte de sociologie du phénomène ou pas?
Eh bien, moi je dirais que très clairement, c'est en train de prendre de l'ampleur. C'est pas nouveau, ça fait des décennies quand même qu'il y a des fermes collectives qui se développent, mais on observe une réelle accélération, c'est très clair. Par contre, c'est très compliqué d'avoir des chiffres. J'en discutais avec une chercheuse sur le sujet le week-end dernier. En fait, déjà, il y a très peu de recherches scientifiques en sciences sociales sur les fermes collectives. Et voilà, il n'y a pas de chiffres qui documentent, mais on voit très clairement que ça essaime. J'ai juste le chiffre sur les fermes coopératives qui sont très spécifiques et qui ont doublé en 3-4 ans en France. Donc c'est on clair. Est sur
c'est-à-dire
une tendance...
On est passé d'une trentaine à une soixantaine, hein, c'est ça. Donc ça reste modeste,
très,
et c'est que
modeste.
Les fermes collectives. Hein, donc,
mais c'est simplement des fermes coopératives qui sont des modèles très très peu... qui ont beaucoup de blocages administratifs. Donc il y a énormément d'autres fermes collectives et des centaines et des milliers.
Mais il y a une dynamique quand même qui existe, c'est ça?
Il y a une dynamique et il y a des réseaux qui s'organisent qui sont hyper intéressants, que j'ai aussi voulu mettre en lumière dans le livre, qui fait des petits focus sur ces réseaux qui permettent en effet à la fois à ces collectifs de se retrouver, de se partager leur expérience, mais aussi d'essaimer et de faire un plaidoyer au niveau national pour aussi faciliter l'installation en collectif qui connaît aujourd'hui pas mal de... blocage aussi administratif.
Alors vous citez plusieurs exemples, le mât du Grenier, c'est ça, dans la plaine de la Croix, qui fonctionne sur quel principe exactement, pour qu'on comprenne bien comment peuvent s'illustrer aussi ces différentes fermes?
Oui, donc mât du Grenier, c'est un collectif très particulier, on est plutôt sur les formes de fermes associatives très militantes qui ont elles ont été fondées il y a plus de 50 ans, donc ça fait partie du réseau Longomaï, qui a été monté dans une optique de chercher des vies différentes de celles que nous propose l'État ou le capital. Et en fait, d'avoir des bases arrières pour vivre ensemble, donc de manière, pour le coup, là, très communautaire, où tout est mis en commun, il y a énormément de mutualisation.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de salaire, par exemple?
Il n'y a pas de salaire, les personnes travaillent uniquement sur le lieu, mais sans chercher à se rémunérer. Et c'est une énorme caisse commune soutenue, alimentée à la fois par la vente des produits de la ferme que par un réseau de donateurs qui soutiennent le projet politique qui permet à tout ça de perdurer économiquement. Et avec des personnes qui, je pense, aussi ont peu de dépenses, mais qui peuvent recevoir un petit argent de poche mensuel. Et à côté de ça, moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans cet exemple de collectif, c'est à quel point ils étaient reliés à des luttes à l'international, aussi parce que ça a été monté par des révolutionnaires européens, européennes de plein de pays différents. Mais contrairement à un préjugé qu'on peut avoir, le livre cherchait aussi à déconstruire tout un tas d'idées reçues qu'on peut avoir sur l'agriculture. On voit bien qu'ils sont à la fois extrêmement centrés localement, mais aussi en lien avec plein de peuples en lutte, que ça soit au Liban, dans le Moyen-Orient plus général, en Amérique du Sud, et en Ukraine, et à travers le monde. Et ça, je trouvais ça extrêmement inspirant.
Vous vous considérez comme paysanne, vous, aujourd'hui, le Lac Arrayan?
J'ai encore du mal à me nommer paysanne, même si des amis disent que je devrais. Mais en tout cas, en transition vers la paysannerie.
Ouais. Donc 4 ans après votre bifurcation et cet appel à la désertion depuis la remise de diplôme d'AgroParisTech. Merci beaucoup d'être venu au micro de La Terre au Carré aujourd'hui. Le Lac Arrayan, je renvoie sur cet ouvrage, ça s'appelle Terre partagée, pour en savoir plus sur ces fermes collectives. C'est aux éditions Le Passager clandestin. Merci à Anna Massardier qui a préparé aujourd'hui ce dossier, Marie Potier à la technique, Jérôme Boulet qui réalisait l'émission et Lucie Sarfati pour la programmation et la coordination de La Terre au Carré.